Bonjour, vous êtes dans la matinale d'Alger Chaîne 3, en direct jusqu'à 10h.
Il est 6h, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 10h, on entame sans plus tarder avec le premier journal de la journée. On se retrouvera donc pour les chroniques de la matinale, juste après le journal présenté par Faisal Kens. Bonjour Fazia.
Bonjour Soraya. L'Algérie qui investit dans sa ressource humaine est un exemple à suivre pour les pays qui aspirent au développement. La déclaration du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Claver Gatet, a reçu par le président de la République. Inauguration ce mardi de la ligne minière Garjbila Tindouf Bchar, près de 1000 km de rail au cœur du méga projet d'exploitation de la mine de Garjbila, l'un des plus grands gisements de fer au monde. La réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, sanctionnée par un communiqué final. Le document réaffirme le soutien des trois pays au dialogue libyen et au retrait des mercenaires étrangers. Le ministère des Affaires étrangères appelle les Algériens à l'étranger en situation irrégulière ou précaire à se rapprocher des représentations diplomatiques pour régulariser leur situation dans un cadre sécurisé. Le CODESA a créé une branche Europe pour renforcer le plaidoyer sur les droits humains au Sahara occidental et défendre l'autodétermination du peuple sahraoui. Plusieurs milliers de personnes manifestent à Paris pour réclamer justice après la mort d'El Hassan Diarra en garde à vue. Le débat sur les violences policières est relancé en France. Cannes 2026 de handball, le 7 national joue ce matin son deuxième match du tour principal face à l'Angola. Objectif, une victoire avec 3 points d'écart pour décrocher une place en demi-finale. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition qu'on entame avec l'audience accordée par le président de la République au secrétaire général adjoint des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Claver Gatet a mis en avant les efforts de l'Algérie qui a investi dans sa ressource humaine. L'Algérie qui est un exemple à suivre pour tout pays qui aspire au développement. Sa déclaration à l'issue de l'audience.
L'Algérie a accompli énormément de progrès. C'est un pays qui assure un accès universel à l'électricité, offre des soins de santé à tous ses citoyens et garantit l'éducation gratuite pour tous. Elle a investi ses propres ressources dans son peuple et a de ce fait réalisé des avancées significatives. C'est un modèle inspirant pour tout pays qui aspire à un développement inclusif et durable. Nous sommes ici pour tirer des enseignements de l'expérience algérienne et explorer les moyens de renforcer notre coopération et de travailler ensemble à l'avenir. Les informations et les enseignements partagés par le président ont été extrêmement précieux pour nous, mais également pour nos échanges avec d'autres dirigeants à travers le continent. Nous exprimons notre profonde reconnaissance et remercions Son Excellence le président pour le briefing détaillé et instructif qu'il nous a accordé.
Événement majeur ce mardi, la mise en service de la ligne minière Garjbila Tindouf Bchar, 1000 km de voies ferrées pour booster l'exploitation de l'un des plus vastes gisements d'acier de la planète. Un projet très attendu par la population. Son lancement devrait transformer l'activité économique dans la région du sud-ouest. Reportage réalisé sur place par Smaïl Mimouni.
Nous sommes à Garjbila, au sud-ouest de l'Algérie, dans la wilaya de Tindouf. Le paysage désertique est désormais rythmé par le bruit des machines. Des équipes travaillent en continu. Abdelkader Mustafa, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya de Tindouf.
Vous entendez très bien le son des engins qui sont en train de débiter les gros enrochements d'abattage qui a été effectué en date du 26 décembre 2025 suite à l'utilisation de l'explosif pour l'abattage de la mine de Garjbila. Cette mine s'étend sur une superficie de 40 000 hectares. Les réserves dépassent 3,5 milliards de tonnes. Les préparatifs sont en cours pour transporter l'abattage de la mine vers la station de concassage à une dimension précise qui sera facile à transporter vers l'usine de traitement au niveau de Béchar.
Au cœur du dispositif industriel, une première unité de production de concentré de fer est actuellement en construction avec une capacité initiale de 4 millions de tonnes par an. Le chef de projet de l'entreprise Ferrala Garjbila, Mahmoud Boukrouma.
C'est une usine de pré-traitement du minerai de 4 millions de tonnes en. Ça, c'est pour la première phase. phases. Il est envisagé de faire encore 3 phases. Il y aura 4 lignes de production, de pré-traitement à sec, un concassage, c'est un criblage avec plantation et une séparation à sec. Et puis c'est transféré sur à peu près 2 km pour arriver sur la voie de chemin de fer.
L'exploitation de la mine de Galadj-Bilet permettra à l'Algérie de réduire ses importations de minerais et de renforcer son autonomie dans la filière sidérurgique.
Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djilaoui, a présidé une réunion consacrée au suivi du projet d'extension du port phosphatier de Annaba, extension qui comprend la construction d'un quai minier dans le cadre du projet du complexe de phosphate intégré. La réception de la ligne minière en chantier devant permettre l'acheminement du phosphate de la mine de Bled El Hadba au port de Annaba est prévue pour avril 2026. L'Algérie capitalise une expérience importante dans les industries extractives. Elle la partage avec les autres pays du continent. En visite à Niamey, le ministre des Hydrocarbures et des Mines a d'ailleurs réitéré la disposition de l'Algérie à reprendre ses activités au niveau du champ pétrolier du bloc Kafra. Mohamed Arkab s'est entretenu avec le ministre nigérien du pétrole en présence des patrons des compagnies nationales des hydrocarbures des deux pays. Il a également été reçu par le premier ministre de l'économie et des finances du Niger. Le chef de la diplomatie algérienne reçu par le président Kais Saied, les deux responsables réaffirment leur volonté de renforcer la coopération algéro-tunisienne et de concrétiser les accords de la dernière commission mixte. Les discussions ont également porté sur la situation en Libye. Ahmed Attaf a réaffirmé qu'Alger et Tunis partagent une vision commune fondée sur l'intégration et la solidarité, rappelant que la sécurité de la Libye est indissociable de celle des pays voisins. L'accent a été mis sur le rôle du mécanisme tripartite des pays voisins, pour soutenir une solution préservant l'unité et la souveraineté du pays. Et selon l'analyste tunisien Rafah Tabib, les pays de la région peuvent contribuer à la réussite du processus électoral en Libye. Il est contacté par Liester Rini.
Les 3 pays présentent une alternative qui est très acceptée par l'ensemble des Libyens. Les 3 pays qui ont une certaine crédibilité peuvent, de concert, pousser les diverses parties libyennes à se réunir afin de penser à démarrer un processus électoral qui puisse être pris en charge par les Libyens, mais surtout qui ne puisse pas être entravé par les volontés des puissances étrangères qui voudraient laisser la Libye comme un champ de chaos milicien et surtout de prédation des ressources.
Le ministère des Affaires étrangères appelle les Algériens à l'étranger en situation précaire et ou irrégulière à se rapprocher des représentations diplomatiques et consulaires pour régulariser leur situation. Cette mesure décidée par le président de la République concerne les personnes faisant l'objet de poursuites pour des faits mineurs et elle leur permettra de rentrer au pays dans un cadre organisé sous réserve de ne pas récidiver. Le Premier ministre Seyfi Ghreib a présidé une réunion du Conseil supérieur de régulation des importations consacrée au bilan des importations pour l'année 2025 et aux prévisions pour 2026. Les discussions ont porté sur l'amélioration du dispositif d'encadrement des importations. L'accent a notamment été mis sur la simplification et la numérisation des procédures, ainsi que sur une meilleure coordination entre les secteurs dans l'objectif de soutenir la production nationale et l'investissement. Un réseau national des incubateurs d'entreprises sera bientôt créé, annonce du ministre de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. C'était en marge de la cérémonie de remise des prix des meilleurs incubateurs du pays. Et parmi les pépinières d'entreprises primées, l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et l'incubateur de l'université de Tlemcen. Leurs impressions recueillies par Samia Aloun.
Nous avons été honorés par cette première place en tant que meilleur incubateur. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des porteurs de projets et start-up dans plusieurs domaines. Nous avons accompagné plus de 350 start-up et un peu plus de 3000 porteurs de projets que nous avons introduits, accompagnés dans la structuration et le développement de leurs projets.
On est ravis. C'est le travail de toute une équipe, de toute l'agence. Et ça nous encourage aussi beaucoup à continuer cette activité, aussi à l'améliorer pour accompagner le plus de start-up sur tout le territoire national.
On est la seule université sur les top 5. Nous, ce qu'on vise, c'est d'aller dans le marché international, d'avoir des startups dans un classement UBI. Et je pense que c'est aussi la vision de tout le gouvernement pour aller dans des marchés internationaux et pour avoir de la croissance pour nos startups.
Et un décret présidentiel publié au Journal officiel instaure le prix du président de la République de la meilleure start-up. Objectif, encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement de l'économie de la connaissance. Le prix récompensera chaque année 3 catégories avec des récompenses financières allant d'1 à 3 millions de dinars. Les lauréats seront primés lors d'une cérémonie officielle organisée en novembre prochain à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'enseignement professionnel au cœur d'un débat parlementaire au Conseil de la Nation. Experts, décideurs et représentants des secteurs sont unanimes quant à l'urgence de former des compétences en adéquation avec les besoins du marché du travail et les ambitions économiques du pays. Hanan Saïsi.
La journée parlementaire a constitué une étape essentielle pour approfondir le débat autour de l'enseignement professionnel en tant que pilier stratégique et levier d'accompagnement des nouvelles orientations économiques du pays. Des orientations connectées aux réalités du marché du travail et aux besoins des secteurs productifs. Nassima Arhab, ministre de la formation professionnelle.
Rencontrer plusieurs personnalités de la sphère législative, mais aussi des opérateurs économiques, des représentants d'autres secteurs. Mais aussi, c'était une occasion pour développer et présenter notre feuille de route pour une formation professionnelle ou un secteur qui prend en considération les priorités économiques du pays avec une approche nationale mais aussi locale à travers l'employabilité mais aussi à l'entrepreneuriat.
La journée a traduit la volonté collective de moderniser l'enseignement professionnel, notamment au sujet du référentiel national des compétences.
Le référentiel est une plateforme qui permet à tous les opérateurs économiques de non seulement exprimer leurs besoins en termes de capacité actuelle, mais aussi future, puisqu'il est aussi en interopérabilité avec l'Agence algérienne de l'investissement qui permet de transformer aussi la formation professionnelle avec des programmes adaptés par les ressources, mais aussi à travers le système pédagogique.
Soit redonner l'attractivité d'investissement aux différents territoires en adéquation avec les besoins en matière de création de postes d'emploi.
L'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle française, Ségolène Royal, présidente de l'association d'amitié algéro-française, est à Alger. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de discussions économiques politiques ambitionnant de leur offrir des horizons clairs. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, le CODESA, annonce la création d'une branche Europe. Cette nouvelle structure aura pour mission de défendre auprès des instances internationales le respect des droits humains au Sahara occidental. Cette initiative vise notamment à renforcer le plaidoyer en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU. Émotion et colère à Paris. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour réclamer justice après la mort d'El Hassan Diarra, un Mauritanien décédé en garde à vue. Un drame qui relance le débat sur les violences policières en France. Liestel Rémy.
La foule s'est rassemblée devant le foyer de travailleurs migrants où vivait El Hassan Diarra, âgé de 35 ans, mort en garde à vue quelques heures après une interpellation policière brutale. Les manifestants par milliers réclament justice et vérité et dénoncent une nouvelle fois les violences policières. Les membres de la famille du défunt affirment ne plus croire en la justice, rappelant que d'autres affaires de mort similaires n'ont jamais été élucidées.
C'est ça la réalité !
Une vidéo montre deux policiers maîtrisant El Hassan au sol. Sur les images, l'un d'eux lui assène deux coups de poing, tandis que la victime crie « Vous m'étranglez ». L'autopsie confirme un arrêt cardio-respiratoire par asphyxie, mais la justice refuse pour l'instant d'en tirer les conclusions. Les deux policiers mis en cause sont toujours en fonction. Une affaire sensible qui relance une fois de plus les débats sur le racisme contre les immigrés, l'usage de la force et la responsabilité policière en France.
Et aux États-Unis, les agents fédéraux déployés par Donald Trump pour lutter contre l'immigration quitteront Minneapolis ce mardi. C'est le maire de la ville qui l'annonce. Le président américain a appelé hier à la fin des violences dans le Minnesota où une vague d'indignation a été suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain tué par les services fédéraux de l'immigration. Aux États-Unis, toujours des millions d'Américains affrontent une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant déjà causé la mort d'au moins 23 personnes et laissé près de 60 000 foyers sans électricité. Les températures devraient encore chuter dans les prochains jours. Le ressenti pourrait atteindre les moins 45 degrés Celsius. Retour chez nous pour parler culture. Samia Chouka a transformé son amour pour le dessin et la peinture en un style unique, profondément abstrait. Inspirée et encouragée par sa belle-mère, la doyenne des arts plastiques, Souhila Belbahar, elle trace désormais sa propre voie et Nadia Siassi l'a rencontrée.
Samia Choukal, artiste plasticienne, a commencé son aventure picturale en 1996 avec plusieurs expositions. Elle a décroché le prix du jeune talent qui lui a permis de réaliser son rêve, d'explorer le monde des couleurs et de créer son style, l'abstrait.
Pourquoi l'abstrait ? Tout simplement parce qu'avec l'abstrait, on voyage. Et je vous fais rêver avec moi. Faire de l'abstrait, c'est en fait casser l'objet, le réinventer. Je réinvente et vous le réinventez, donc vous le faites vivre. Un tableau figuratif, il est figé. C'est vrai, c'est bien beau, on fait des paysages. Je cherche autre chose, c'est-à-dire ce que je ressens. Par exemple, ça arrive que je passe un abstrait, on me dit, oh, je vois une rose. Mais elle n'est pas là. C'est ça l'abstrait, c'est aller derrière la chose, casser l'objet et essayer de vous faire ressentir ce que je ressens. Si vous le ressentez, c'est que c'est réussi. Et si vous voyez autre chose, c'est que le tableau est encore plus riche que ce que je pense.
Le premier tableau, il y a du bleu et du noir. J'ai imaginé deux personnages.
Tout à fait, c'est ça l'abstrait, c'est ça la magie de l'abstrait. C'est le voyage. Je vois quelque chose, mais vous voyez autre chose. Le tableau est riche, il est là. Vous avez ressenti ce que j'ai ressenti. C'est ça l'effet. C'est pas regarder simplement. On essaie de comprendre ce que veut dire l'artiste. C'est moral, c'est la pensée. La couleur, c'est un langage. Et la forme, c'est le mouvement. Et le tableau, il peut exprimer parfois le silence, parfois le bruit, la colère. Juste avec une couleur et un trait, c'est magique.
Samia Choukal présente ses œuvres à la Galerie Ahlam, au 6 rue des Tourelles à Hidra, jusqu'au 10 février.
Du sport pour terminer avec la CAN 2026 de handball, le 7 national joue ce mardi son deuxième match du tour principal face à l'Angola. Il doit impérativement s'imposer par 3 buts d'écart pour se qualifier en demi-finale. Et dans le cas contraire, les Verts devront batailler lors des matchs de classement et obtenir la 5e place qualificative au championnat du monde 2027 en Allemagne. Coup d'envoi de la rencontre, donc Algérie-Angola, 10h30 ce matin. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Samir était à la console technique et Tahar à la régie d'antenne.